Dico.
Vendredi thématique sur Europe 1 toute la journée, 2 ans après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. On fait le point dans vos rendez-vous d'infos sur la montée de l'islamisme à l'école. Les signalements d'atteinte à la laïcité se multiplient quand ce ne sont pas carrément des menaces de mort. On va te faire une Samuel Paty. Voilà le genre de message que l'on peut entendre à l'école depuis 2 ans. Un spécialiste du djihadisme et du salafisme est avec nous ce matin. Bonjour Bernard Rougier.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes professeur à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, directeur du Centre des études arabes et orientales, et vous avez dirigé, il y a de cela 2 ans, l'ouvrage collectif Les territoires conquis de l'islamisme. C'est paru au PUF, avant la mort de Samuel Paty, donc cet ouvrage qui fait encore parler. C'est une enquête sur la manière dont, vous écrivez, des écosystèmes islamistes se sont développés à l'intérieur des quartiers populaires. Comment s'inscrit la décapitation de Samuel Paty, Bernard Rougier, dans cette dynamique de fond que vous décrivez?
Précisément, les islamistes mettent en place un récit de persécution et tout ce qui arrive s'inscrit dans ce récit. C'est-à-dire que la rumeur, la construction du délit autour de l'affaire Samuel Paty, un récit qui est faux, mais qui a circulé dans les réseaux sociaux. Si vous voulez, il y a déjà un imaginaire de la persécution qui est constitué. Ensuite, il est relayé sur les réseaux sociaux et évidemment, dans ce contexte-là, où on a un ennemi de l'islam, entre guillemets, évidemment, vous allez avoir des éléments qui vont passer à l'acte. Si vous voulez, on cible la victime,
oui.
On considère qu'il est à l'origine de tout ce qui se fait contre l'islam, et on crée les conditions d'une violence d'abord symbolique qui va passer ensuite à la violence physique.
Vous expliquez très bien dans votre livre que la mécanique, par exemple, de ce qui se passe chez Samuel Paty, il n'y a pas vraiment de complot. Vous avez un père, effectivement, Brahim Chnina, qui dit n'importe quoi, qui prétend qu'on a montré des images de Mahomet nu aux élèves en classe. C'était totalement faux, mais la rumeur s'amplifie. Et il suffit qu'un jeune homme, Abdoulak Anzorov, 18 ans, voit cette vidéo et il va se radicaliser très vite, tout seul, par le biais aussi de ses contacts. Donc il y a une espèce de mécanique d'opportunisme.
Il y a un mécanisme d'opportunisme, comme vous dites. Anzorov est déjà probablement islamiste avant même de passer à l'acte. On rencontre ce père de famille qui monte ce récit de la persécution parce qu'il veut y croire, parce que c'est ce qu'il lit en permanence. C'est-à-dire qu'il lit que l'État français est une machine à persécuter l'islam, une machine islamophobe. Donc l'événement, l'incident supposé d'un professeur qui aurait demandé aux élèves musulmans de quitter la salle, ce qui est faux, parce qu'il allait montrer des caricatures. Tout ça, si vous voulez, s'inscrit dans un récit, encore une fois un récit de la persécution, où chaque élément s'inscrit dans le récit. Donc on va croire avant de savoir, si vous voulez.
Oui. Alors on a les chiffres Éducation nationale de septembre, Bernard Rougier, qui montrent une augmentation des atteintes à la laïcité à l'école. C'est frappant, il y avait 33 ans de cela, en 89, l'affaire du voile de Creil. On reviendra dessus dans quelques minutes avec l'ordre d'Autriche. Aujourd'hui, ce dont on parle, c'est la prolifération des tenues traditionnelles islamiques type abaya, ces longues robes noires pour les femmes, ou camis.
Ou camis, les tuniques longues.
Pour les hommes, voilà. Mais aussi, on entend des appels à la prière dans les établissements. C'est parfois coordonné depuis l'extérieur sur les réseaux sociaux. Pourquoi l'école est-elle une cible pour les islamistes,
hein ? L'école est une cible parce que c'est l'espace d'émancipation. Si vous voulez, il faut bien comprendre que l'école, c'est l'extension de l'État et qu'on est dans une culture politique où l'État a mis fin aux guerres civiles religieuses au XVIe, XVIIe siècle. Il faut vraiment replacer ce principe de laïcité dans le temps long et considérer que le lieu de l'universalité, le lieu où on s'adresse à l'universel à travers chaque individu, c'est l'école. Et évidemment, ça ne peut pas être un lieu où on affirme de manière ostentatoire, ses adhésions politiques ou religieuses, parce que dans ce cas-là, on casse ce message et l'école peut devenir un lieu de prosélytisme. L'idée, c'est de protéger les élèves d'origine musulmane, en l'occurrence s'agissant du voile, contre la pression des élèves voilés qui vont dire à leurs coreligionnaires « vous êtes de mauvaises musulmanes parce que vous ne portez pas tel ou tel signe ». Donc c'est un système de culpabilisation et de mise en accusation qu'il faut casser. Et c'est lorsque la commission Stasi avait statué sur la loi interdisant le voile à l'école, cet élément a convaincu les membres de la commission.
C'est la loi de 2004.
C'est la loi de 2004. Il s'agissait de protéger les élèves d'origine musulmane contre la pression de celles qui portaient des signes religieux.
Est-ce qu'on peut préciser, Bernard Rougier, pardonnez-moi, je vous ai interrompu, quand on dit les islamistes, qui sont les islamistes? Qu'est-ce qui se cache derrière?
Les islamistes, et pour répondre à votre question sur ce qui se passe en ce moment, c'est, en réalité, à l'école, le résultat d'une mobilisation qui s'opère par des cours en ligne, par des conférences, si vous voulez, une mobilisation...
Un soft power islamiste.
Permanente, hein. Un soft power qui vient de plusieurs courants, néo-frères musulmans, frères musulmans, salafistes, qui s'accordent à peu près pour, sur les réseaux sociaux, sur des comptes anonymes, TikTok, Twitter, on les a vus, laisser de très jeunes adolescents mettre en place des techniques de contournement de la loi sur l'école. Mmh. Mais ça se passe en deux temps, si vous voulez. Ils ne vont pas dire, parce que là, ils seraient pris la main dans le sac, qu'il faut mettre le voile à l'école ou prier pendant les heures de cours, etc. Ils vont insister sur l'idée que si vous ne faites pas vos 5 prières à l'heure, vous n'êtes plus musulman. Oui. On ne peut pas rattraper ces prières. Un certain nombre d'entre eux vont dire ça. Ensuite, vous aurez des adolescents ou des adolescentes de 15, 16, 17 ans ou de 14 ans qui vont relayer de manière anonyme ces consignes, en quelque sorte, ce qui permet d'échapper à la responsabilité. Les comptes sont anonymisés, les prédicateurs ne vont pas dire de manière ouverte « porter le voile à l'école », mais ils vont insister, dramatiser, considérer que c'est un enjeu qui va déterminer le salut ou la damnation de la personne dans l'au-delà. Oui. Donc il y a une dramatisation des enjeux autour de l'école ou autour de la vie quotidienne en France. Puis, des adolescents vont relayer ces messages sur les réseaux sociaux.
On comprend bien la mécanique
est en place et on ne peut pas identifier réellement l'auteur du délit en question.
Donc si je vous comprends bien, quand le ministère de l'Intérieur nous dit qu'il y a 40 000 militants islamistes en France, ce chiffre ne veut pas dire grand-chose, parce que l'on voit qu'effectivement, c'est une influence.
Si vous voulez, pour répondre à votre question sur l'islamisme, je propose une définition simple, c'est la manière de transformer une tradition religieuse en instrument de pouvoir. Transformer une tradition religieuse en instrument de contrôle, la simplifier ouvertement et faire peser une culpabilité sur les musulmans qui ne se conformeraient pas à un certain nombre de principes, de préceptes, etc.
Alors dans votre livre, vous remontez aux sources de ces phénomènes à la fois de radicalisation en France, mais aussi de l'essor de ce soft power islamiste. D'autres exemples, les oursons, les poupées sans visage que l'on commercialise. J'ai vu qu'il y avait un jeu de cartes qui s'appelle Sahaba Heroes, sur le modèle des cartes Pokémon, sauf que là ce sont les compagnons du prophète, et les enfants s'échangent ça à l'école.
C'est un peu une sorte de métaverse islamiste, si vous voulez. Tout doit être doublé par une version islamiquement acceptable. Donc vous aurez une passion pour le droit, notamment le droit malékite, qui va en quelque sorte contourner ou se superposer au droit civil français. Oui. Vous allez avoir des héros qui ne sont pas ceux de l'histoire de France, mais qui sont ceux de l'islam, et qui vont être enseignés dans des petits bouquins à des très jeunes enfants.
Oui.
Vous avez les jouets, en effet, sans visage.
Et vous dites que, en fait, ça, c'est le prolongement d'une révolution salafiste qui a eu lieu dans les pays musulmans et qui a été importée en France.
C'est ça. Cette révolution, elle a eu lieu il y a maintenant 30 ou 40 ans dans le monde musulman, et elle passe évidemment de l'autre côté de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'à mon sens, il est impossible de comprendre ces phénomènes sans en étudier la source et j'allais dire, les modalités de transmission d'une rive de la Méditerranée à une autre rive. Mmh. Ce sont des réseaux transnationaux, ce sont des nouvelles définitions de l'islam qui ont leur source, en quelque sorte, dans le monde musulman.
Alors, jusqu'à présent, Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation, a semblé plutôt réticent à prendre la question de ces atteintes à la laïcité à bras-le-corps. Il a sorti les chiffres quand même, il reconnaît que le phénomène est là, mais il dit qu'il se garderait bien de généraliser ces phénomènes. Voilà ce qu'il dit dans le journal Le Monde hier.
À mon sens, il ne s'agit pas tant de les généraliser, mais il faut bien voir qu'on a atteint une masse critique et que c'est un phénomène de fond. Ça ne peut pas être analysé, si vous voulez, à travers des cas individuels. Les cas les plus graves, ou les menaces de mort, ou l'expression « je vais te faire une Samuel Paty », qui est une expression consacrée, maintenant qu'on rencontre très souvent dans tous ces comptes anonymes, ne peut pas se voir sous l'angle du fait divers. On a un phénomène, parce que là, le risque, si vous voulez, c'est à nouveau de relativiser l'importance du phénomène et de se trouver surpris lorsqu'il y aura un acte irréparable. Il faut bien considérer qu'on a affaire à un phénomène extrêmement sérieux, minoritaire certes, mais extrêmement actif.
Merci beaucoup Bernard Rougier d'être venu nous éclairer ce matin. Je rappelle le titre de cet ouvrage collectif que vous avez dirigé, c'est paru au PUF en 2020, Les territoires conquis de l'islamisme, c'est évidemment la suite logique pratiquement des territoires perdus de la République, livre écrit par Yanis Roder qui sera notre invité tout à l'heure à 8h40. Merci d'être venu nous voir Bernard Rougier, bonne journée.